Française.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler. Parler.
Ah, souvenir, souvenir, après 5 ans de Sarkozy et 10 ans de droite au pouvoir, après 14 ans de Mitterrandi et 5 ans de Jospinade, n'est-il pas venu le temps de faire du passé table rase pour inventer un monde enchanté? Et vu qu'on est en pleine législative, j'aurais une question toute simple. Pour vous, quelle serait la meilleure majorité pour gouverner? Ce Jean-Claude Guessot nous disait la semaine dernière que la gauche plurielle avait vécu et qu'il ne saurait être question de la ressusciter. Alors, pourquoi pas? Quelle majorité, quelle meilleure majorité pensez-vous qui pourrait advenir le 17 juin? Jean-Louis.
D'abord, moi je pense que la meilleure majorité, c'est celle qui est cohérente et qui s'entend sur un programme et sur des idées. Parce que une majorité qui...
Donc
est...
vers PS.
Non, je ne vais pas parler.
Et radicaux.
Je ne parle pas en termes d'étiquette, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout mon propos de parler en termes de boutique et d'étiquette. Je pense que simplement une majorité qui s'allie de façon artificielle en étant en désaccord au fond pour que les désaccords éclatent, etc., c'est pas la bonne solution. Donc il faut les deux.
Donc il faut pas voter Front de Gauche.
Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi? Je pense qu'avec le Front de Gauche, on peut trouver des points de convergence. Là, le Front de Gauche veut mesurer son rapport de force à une législative, c'est son droit. On verra comment votent les électeurs. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'après ces législatives, il y ait le rassemblement le plus large. Je ne vois pas pourquoi le Front de Gauche ne ferait pas partie de ce rassemblement et ne participerait pas au gouvernement. Moi, ça me paraîtrait totalement naturel. Simplement, ce que je dis, c'est que pour que ce n'est pas juste un vœu comme ça d'un périmètre, c'est aussi le vœu qu'on s'entende sur le fond. Je crois qu'il y a la même démarche de l'autre côté. Yeah. Et c'est ça qui est fort, c'est de s'entendre large en étant solide, cohérent sur le fond. Et alors ça veut dire que tout le monde doit faire un pas, parce qu'en même temps, on ne peut pas s'entendre sur des... Il faut s'entendre sur des positions qui font consensus, il faut s'entendre aussi sur des positions réalistes. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Donc je pense que les élections, le débat sont faits pour ça, pour mesurer l'influence des uns et des autres, et pour ensuite trouver le point d'équilibre, le point de compromis que je souhaite. Mais ce point d'équilibre, ce n'est pas juste un périmètre, c'est un périmètre avec un contenu sur lequel on s'engage pour 5 ans, pour une direction, de façon réaliste, et pour répondre aux attentes des gens dans un moment donné. Ça ne veut pas dire que sur le long terme, on n'est pas en désaccord, que certains ne veulent pas aller plus loin dans une direction ou d'autre, mais simplement... Il faut s'entendre là sur ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite, dans la crise de l'euro, dans la crise grecque, dans des difficultés
voilà. Alors, Michel, quelle majorité, je dis bien, pour gouverner? Autrement dit, le Front de Gauche, quoi qu'il en soit, est-il prêt à entrer dans le gouvernement?
Mais je répondrai tout à l'heure, mais si vous voulez, moi la majorité que je souhaite, c'est pas sur la forme, mais sur le fond du contenu. Et sur l'esprit du rassemblement, je dirais une majorité Front de Gauche. Parce que le Front de Gauche, il n'est pas voué à rester dans l'état où il est. Ce qu'on veut, c'est un rassemblement populaire majoritaire. C'est ça l'outil.
Oui, enfin, pourquoi? Ce ne sera pas le col 17 juin.
Non, mais rien n'est acquis. Parce
c'est vrai, c'est vrai.
On parle encore de
ça. Il serait quand même assez surprenant que le Front de Gauche obtienne plus de 50%
c'est pas ça.
Des voix.
On oublie une chose. On parle en nombre de députés. D'accord? Effectivement, c'est important. Moi, j'aime mieux parler en situation réelle économique de la France et de l'Europe, et j'aime mieux parler aux enjeux auxquels nous devons répondre. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, parce que revenir en arrière, gauche plurielle, bon, ça a échoué, etc. Et est-ce que c'est la question qui est posée actuellement, et est-ce que l'état du pays et de l'Europe était le même il y a 10 ans, il y a 20 ans qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de répondre à une crise brutale qui est à un niveau, une crise du capitalisme très dur, qui est à un niveau qui met les États en faillite, tels que la Grèce, l'Espagne qui est en grosse difficulté, le Portugal et la France, on n'est pas très fiers, nous ne faisons pas beaucoup d'illusions. L'enjeu, c'est à la fois de répondre donc à une situation nationale précise et en même temps, regardez aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, mais l'espoir qu'avait fait lever à un moment donné la construction européenne, notamment parmi la jeunesse. Maintenant, l'Europe, c'est quoi? à la suite des traités successifs que sont succédés, à la suite de l'orientation européenne uniquement de concurrence de capitalisme.
Là, ça peut pas aller, parce que l'Europe, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Moscovici, oui, pour ne citer que, alors, sont franchement très européens.
Mais je vais vous répondre. Mais nous aussi, moi aussi je suis européen. Mais quelle Europe ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est l'Europe de la concurrence. Aujourd'hui, c'est l'Europe de l'exploitation. Et aujourd'hui, ça se traduit au niveau des peuples par l'Europe de la peur. Et y compris des gens qui ne sont pas de mon bord, etc., tels que Bayrou, craignent d'ailleurs que cette Europe se disloque. Et donc, si François Hollande et le gouvernement et l'Assemblée nationale va vers une Europe de progrès, une Europe sociale, voit vers la révision des traités pour aller vers une Europe démocratique, ils auront avec eux le Front de Gauche. Mais c'est au pied du mur qu'on juge le maçon, et l'œuvre est importante aujourd'hui.
Donc, au lendemain du 17 juin, le Front de Gauche, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans le gouvernement.
Les communistes, le Parti communiste français se réunira le 18 juin et décidera du 20 juin la comment et quel soutien et quelle construction possible il sera proposé au gouvernement, à la majorité de gauche sortie des élections présidentielles, pour travailler pour TASIP. Je vous signale que avant-hier, le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale des députés communistes et partis de gauche a écrit une lettre à François Hollande en lui demandant de se rencontrer et d'examiner comment on peut travailler ensemble, parce que nous, ce qu'on veut, on veut battre et affaiblir la droite et l'extrême gauche, et on ne veut surtout pas que la gauche échoue dans ce pays, parce que ce serait catastrophique.
Alors, je me retourne vers les Verts, vers Jean-Louis Roumégas. On a qualifié les Verts, et parfois même vous qualifiez aussi, non pas d'être irresponsable, mais en tout cas d'être souvent ingérable. Est-ce que vous êtes devenu gérable ?
Je crois que ce qu'il faut voir, c'est la situation du pays. On n'est pas, c'est pas la même chose quand vous êtes à gérer une situation difficile. Ça implique pas les mêmes responsabilités que quand il y a des situations où on peut se perdre.
Il est dans la majorité maintenant. Il est plus dans l'opposition. Il dit pas que des conneries maintenant. Il dit des choses raisonnées.
Il n'est pas encore avec le costume trois pièces. Il a mis la veste.
Il a mis la veste. Il a retiré la cravate.
Ça devient du vert clair.
C'est un avis. Donc à mon avis, il devient gérable.
À propos de conneries, je note quand même que c'est un avis d'expert.
Merci Laurent.
Mais non, donc ça, on a fait une campagne d'emblée dès les présidentielles. D'ailleurs, ça nous a sûrement coûté de la visibilité, de la force, etc. On a choisi une campagne de responsabilité, c'est-à-dire notre enjeu, c'était nous bien non seulement de battre Sarkozy, mais de construire une majorité.
Ça aurait pas été une meilleure idée qu'il n'y ait pas de candidat vert.
Ça aurait été une solution.
Ce que Colpendi
proposait. On a fait ce choix collectivement, mais effectivement, c'était peut-être plus clair. La situation, en tout cas, ne laissait pas beaucoup d'espace, ça c'est sûr. Donc nous, on a choisi, en tout cas, depuis le début de la séquence, depuis cet automne, l'automne dernier, on a choisi cette attitude de responsabilité, non seulement pour battre Sarkozy, mais pour proposer une autre politique unie. Unis, mon slogan c'est unis, plus fort, plus juste, vous l'avez vu dans cette campagne. Parce qu'on croit qu'il faut savoir répondre à ces enjeux des différentes crises qu'il y a d'abord. Il y a l'immédiateté, c'est la crise financière, effectivement, et la crise des États. Mais il y a une crise plus profonde qui est aussi une crise du modèle économique avec la crise écologique qui est derrière. On sait très bien que l'économie dépendante du pétrole, eh bien, elle a du souci à se faire, qu'il va falloir inventer un nouveau système économique basé sur un autre système énergétique. La question de la transition énergétique, ce n'est pas un petit truc pour faire plaisir aux écolos, c'est vraiment une question fondamentale si on veut s'adapter au monde qui vient, qui est un monde où l'énergie va coûter de plus en plus cher, où la demande explose avec les pays émergents comme la Chine, où il faut trouver des réponses. Et si on ne trouve pas ces réponses, il n'y aura ni richesse, ni partage des richesses possibles, parce qu'on ne se sera pas adapté au monde qui vient. Donc, toutes ces questions, il faut les aborder de front. Elles sont là, elles sont devant nous, on ne peut pas... Et donc, évidemment, ça impose des responsabilités.
J'en reviens là, aux communistes, non plus au Front de Gauche, mais aux communistes. J'ai l'impression là que, depuis quelques semaines, vous rêvez d'en revenir au bon temps du Front Populaire avec un soutien sans participation. Et éventuellement faisant descendre des gens dans la rue. Qu'est-ce que vous craignez à gouverner véritablement ?
Non,
Et puis, excuse-moi, j'ai une dernière question mais qui va avec. Mais j'ai déjà presque la réponse, je l'ai presque donnée tout à l'heure. Jusqu'à quand les gens du parti de gauche resteront fréquentables ? À quand le divorce ? Bah, tu nous l'as dit, c'est le 20 juin. C'est-à-dire que vous réunissez le parti communiste, mais sans le Front de gauche. Et vous déciderez. Bon, donc la réponse pour le divorce, je l'ai, c'est le 20 juin. Mais soutien sans participation, est-ce que c'est vraiment... Vous craignez de gouverner ?
Non, mais j'ai pas du tout dit ça. Et d'ailleurs, je trouve que...
Non, c'est moi qui traduis. Jean-Louis l'a dit, des conneries. Et moi, je suis toujours dans l'opposition.
Votre remarque n'est pas juste parce que, justement, une des positions constantes du Parti communiste, c'est chaque fois qu'il juge, dans une commune, dans un conseil général, dans un conseil régional, et voire à l'État, il juge que sa prise de responsabilité dans les exécutifs est utile pour le pays et pour les gens. Chaque fois, il participe, hein. Quand Montpellier, vous pouvez regarder, c'est une constante, disons, oui. De notre politique.
Je parle au niveau national.
Et donc, si au niveau national, nous jugeons le vin, que la participation, notre participation, jusque dans les ministères, est utile pour faire avancer les idées que l'on défend à travers le programme du Front de gauche lui-même d'abord, oui, pourquoi pas, nous irons. Nous ne reculerons pas devant nos responsabilités. Et la deuxième chose...
Vous croyez qu'en 80 et en 97, ça vraiment... aider les ministres communistes ?
Moi, je crois que les ministres communistes, ils ont fait des choses en 81 jusqu'en 83, et ensuite, dans la deuxième période, avec le gouvernement Jospin, des choses utiles, certainement, passées, certainement que le soutien populaire n'a pas été assez important pour imposer des réformes plus importantes, et nous en avons tiré les leçons. Mais le vin, ce n'est pas le divorce avec le Front de gauche. Le Front de gauche, c'est un rassemblement de partis politiques qu'on veut beaucoup plus large au niveau des partis et surtout au niveau des populations, etc. Mais dans ce Front de gauche, les partis politiques demeurent. Il n'y a pas de fusion entre le Parti communiste et le Parti de gauche. Il y a des points où on est d'accord, mais à 99%, mais il y en a quelques-uns. Disons, on n'est pas d'accord. On a, par exemple, sur les questions énergétiques, le Parti communiste, une divergence avec l'approche qu'en a le Parti de gauche. Vous savez, quand vous vous mariez, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre compagne et parfois, vous avez quand même des lunes de miel et vous vivez très bien ensemble.
Normalement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein.
Alors, mais actuellement, le Front de gauche...
Le lecteur, à ce moment, il préfère quand même que ce soit pour le meilleur.
Ouais, mais non, on n'est pas mécontents, nous, du résultat de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même le meilleur, on a évité le pire.
Alors, moi, je voudrais vous poser une petite question par rapport à...
Les époux se jurent mutuellement secours, fidélité et assistance. Hein, j'ai pas l'impression que la fidélité soit vraiment envisagée.
Tu sais très bien, Jean-Louis, tu as pu le vérifier parce qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est fidèle, qu'on est franc. Ceci étant dit, il y a une différence entre être fidèle et entre être suiviste.
Bon, de toute façon, moi, je suis pour l'union libre, tu le sais. Comme ça, il n'y a pas de souci.
Je voudrais qu'on en revienne, mais cette fois-ci, au président de la République, à François Hollande. Le jour de son intronisation, il est allé déposer une gerbe sur la tombe de Jules Ferry. Est-ce que c'était pas une fausse bonne idée ? Parce que Jules Ferry, certes, ça a été l'homme de l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire, mais ça a été celui de la colonisation, du concept de civiliser les races inférieures. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu honorer un Victor Hugo ou quelqu'un comme ça ? Est-ce que ça n'a pas été un faux pas de François Hollande ?
Moi, je crois pas, parce qu'il est allé fleurir la tombe de Jules Ferry, mais aussi, il a participé à la journée... de commémoration
et Marie Curie
de l'esclavage.
Marie Curie, ok, il n'y a pas de problème, mais Jules Ferry,
malheureusement, c'était le produit d'une époque qui était, c'est vrai, bourrée.
Il a pris des précautions quand même, hein. Oratoire.
Non, mais ce qui est retenu de Jules Ferry, c'est quand même l'école.
Voilà.
Alors, restons-en là et ne grattons pas.
L'école, par contre, ça, je suis heureux de cet engagement du gouvernement actuel sur l'école.
Il a mieux fait d'aller...
Parce que ce qui s'est passé pendant 5 ans, vous le savez, moi, je travaille dans l'enseignement et dans un RASED.
Dans les RASED, oui, justement.
Qui ont été dépecés totalement.
Et ça, ils veulent les réhabiliter.
Ça veut dire que c'est très simple. Ça veut dire que les enfants en difficulté... ne sont plus moins pris en charge dans le cadre scolaire. Ils sont envoyés vers l'extérieur ou alors ils sont envoyés vers les filières où on dit, ben, s'il ne réussit pas, il ira dans telle filière. En gros, on les sort du système général. Et ça, c'était assumé par la politique de Sarkozy. Et c'est une erreur. On ne peut pas dire, pour des raisons budgétaires, qu'on va sacrifier nos enfants. Enfin, qui peut admettre une idée comme ça ? Qu'on fasse des choix budgétaires, qu'on choisisse dans les services publics où il y a des priorités, oui. Mais dire qu'on va abandonner l'éducation comme une priorité... C'est impensable. Enfin, je demandais à des parents d'élèves, même qui votent à droite, ils sont d'accord avec cette idée. Ils seront d'accord quand il ne s'agira pas de leur enfant. Mais quand il s'agira de leur enfant, je peux
dire on l'a vu dans les priorités d'ailleurs du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale est numéro 2 du gouvernement cette fois-ci. Donc, il y a une vraie priorité. Je voudrais qu'on vienne à autre chose. À Laurent Fabius. Bon, Laurent Fabius, le grand retour dans le gouvernement, l'homme du non au traité constitutionnel de 2005. Est-ce que ce n'est pas carrément de la provo vis-à-vis d'Angela Merkel, en particulier, et de l'Allemagne en général ? Bon, heureusement que le ministre des Affaires étrangères, dans le cadre européen, n'a aucun pouvoir. C'est le président de la République et le Premier ministre qui en ont. Donc c'est juste agiter un espèce de chiffon
rouge. Non, moi je
crois
pas que c'est de la provocation, parce que bon, dans les noms, il faut distinguer les noms qui étaient des noms anti-européens et des noms qui étaient des Européens qui voulaient... une réorientation. Moi, j'avais voté oui au traité constitutionnel, mais je ne fais pas l'injure de considérer qu'on peut mettre tous les noms dans le même sac. Et vous aviez des noms d'extrême droite qui sont...
Ah, puis il y avait les noms opportunistes dont Fabius faisait partie.
Pas nécessairement.
C'est une manière d'essayer de récupérer le PS.
Je ne sais pas s'il faut penser ça.
Non.
C'est vrai que ça a surpris.
Effectivement, il y avait des noms contre l'Europe.
Et des noms.
Et des noms qui étaient pour une meilleure Europe.
Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde... Nous, on a eu le même débat. Vous vous rappelez quand on a réuni Cohn-Bendit et Bové. C'était la même chose.
Ah oui.
Et ils se sont, mais ils ont résolu la contradiction par une synthèse qui était quelle est l'Europe qu'on va défendre maintenant. Et le point commun, c'est qu'ils étaient tous pour une nouvelle construction européenne. J'en profite pour dire que José Bové sera ce jeudi à Villeneuve-les-Maguelones pour animer un meeting dans ma circonscription.
Ouais. Devant la prison ou dans la prison ?
Il est citoyen d'honneur de la commune de Villeneuve.
Il a effectivement vécu
quelques années dans des conditions pas toujours faciles.
Moi, j'attends de Laurent Fabius un geste fort. Et donc de François Hollande. Parce que Laurent Fabius est un homme d'État. Je crois qu'il a prouvé. Même si on n'a pas toujours été d'accord avec lui, puisque c'est quand il a été nommé Premier ministre.
Que vous avez quitté le gouvernement.
Qu'on a quitté le gouvernement, étant donné que là, il y avait un changement d'orientation. Mais pour revenir sur l'Europe, moi j'attends du gouvernement, Laurent Fabius, qui dit des signes forts en disant le traité constitutionnel, il y a eu un référendum. Le peuple s'est exprimé. Il a rejeté ce traité constitutionnel. Sarkozy n'a pas tenu compte de l'opinion du peuple. Mais nous, on va tenir compte de notre opinion. Et donc, on va renégocier le traité. Voilà. Voilà un signe fort. Et je ne mets rien dedans pour l'instant. Je ne mets rien. Je dirais parce que si, on ne va pas jusque-là, c'est-à-dire que l'expression populaire à la vie d'un vote des gens, les entend pas. Et là, il faut les entendre. Et il faut donc qu'on se mette autour de la table pour discuter des mesures. Moi, je me félicite que François Hollande mette la croissance à l'ordre du jour, parce qu'effectivement, l'Europe et la France ont besoin de croissance à l'ordre du jour des sommets. Eh bien, nous sommes prêts, nous, à travailler sur les mesures concrètes permettant de répondre à cet objectif politique. Et donc, je pense que compte tenu du vote qu'il y a eu en 2005, eh bien, je fais confiance à Laurent Fabius, à François Hollande pour dire « Sarkozy ne vous a pas écouté, mais nous allons vous écouter ».
Sur cette question. Je crois que l'Europe a des choses très concrètes à faire maintenant qui relèvent d'une politique économique au niveau européen. Avec aussi des objectifs sociaux, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une politique économique et avant tout une gouvernance économique, ce qui vont être surtout le contrôle du système bancaire. Ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que l'Europe qui peut contrôler le système bancaire. On marche sur la tête. En gros, c'est quand même les banques qui continuent à faire de l'argent, y compris dans la crise des États. Ça, c'est inacceptable. Il faut réformer totalement ça. Il faut mettre fin aux paradis fiscaux aussi, parce que sinon, on ne contrôlera rien sans mettre fin aux paradis fiscaux. Et ensuite, il faut effectivement mettre au niveau européen en place une politique économique de grands travaux qui, pour moi, sont ceux de la restructuration de l'économie sur les questions de l'énergie, des transports, par exemple. Il y a des grands chantiers à mener qui vont redonner de l'ère à l'économie, qui vont surtout la réorienter, la mettre sur le bon chemin. On était dans une économie de la finance. Aujourd'hui, on a besoin d'une économie qui s'adapte, je le disais tout à l'heure, aux enjeux du monde, que sont la question énergétique. Et ça, ce sont des politiques publiques. Ce n'est pas le marché qui le fera tout seul. Il faut que ce soit l'Europe qui décide de le faire. Ça sera créateur d'emplois. Et bien sûr, à côté de ça, il faudra mettre en place la politique fiscale plus juste et les politiques sociales qui permettent d'avoir plus de justice sociale et qui n'est pas ce dumping entre les pays européens. Ouais.
La vision économique, je pense que justement, c'est personnel, mais je pense que justement la France, pendant ces 10 dernières années, en a manqué.
Totalement.
De vision à moyen terme, voire à long terme. Mais il n'empêche quand même quelque part qu'après tout ce que tu as dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand même, le gouvernement va être amené à travailler dans l'urgence quand on voit à longueur d'heures, je dirais, la liste de tous les plans sociaux qui se présentent. Parce que quand je fais le compte, moi, très rapidement, là, 3 000 ici, 500 ici, 700 ici, tu es rapidement avec 1 million de chômeurs supplémentaires. Là, ça va très vite.
Et là, quand même, le gouvernement... Il a du boulot, là.
Est-ce que le gouvernement,
c'est pas un cadeau, son ministère.
N'a pas des mesures d'urgence
c'est à, bon à, de là.
À prendre, parce que, quand même, ça, c'est le...
C'est réduit de données ouvertes.
C'est le quotidien, mais c'est la réalité aujourd'hui.
Pas, ouais.
Regardez comme on avance vite. Parce qu'on me dit le gouvernement. Mais c'est le gouvernement, c'est les députés. Et ce sont toutes celles et ceux qui se préoccupent par la vie économique et sociale du pays. Par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis, ce n'était pas sa même position au moment du vote par rapport au traité de la Constitution européenne. Mais je m'en félicite. C'est qu'il a dit, je rajouterai juste un peu la démocratie. Parce que sur la question de l'argent réorienter le rôle de la BCE, on est d'accord. Une politique industrielle, c'est-à-dire avec des emplois productifs, on est d'accord. Répondre à la question sociale et écologique qui est fondamentale, on est d'accord, c'est le programme du Front de Gauche. Donc on peut vite avancer.
Est-ce qu'il faut une loi, par exemple, sur le contrôle des licenciements? Alors, il y en a eu par le passé.
Est-ce qu'il faut légiférer
c'est une question, c'est une réponse à l'urgence.
Je pense que Jean-Louis ne dira pas le contraire lorsque on dit qu'il faut une loi, et surtout avec les partenaires sociaux travailler, afin que les licenciements boursiers ou les licenciements pour délocalisation soient impossibles. Alors peut-être au niveau de la loi, etc., on discutera, mais sur le principe même, je crois qu'il n'y a pas de désaccord. Donc on peut avancer vite. Et ce qui nous fait avancer vite, c'est l'utilité de nos propositions par rapport à la crise. C'est ça la question, parce qu'on peut avoir n'importe quelle idéologie. Si on est inutile aujourd'hui par rapport à la crise, on sera condamné, et ce sera la droite et l'extrême droite qui gagnera. Et je ne pense pas qu'un seul membre de la majorité... aujourd'hui, de gauche, puisse penser être inutile dans la période actuelle.
Alors, une dernière petite question là, pour clore ce chapitre-là, au-delà de l'économie, c'est la nomination de Christiane Taubira à la justice. Moi, personnellement, ça m'a quand même surpris. Elle incarne le communautarisme, les lois mémorielles. Je ne suis pas sûr que pour la justice sociale, Eva Joly, ministre de la Justice, alors là, Sarko, il aurait eu des soucis à se faire. Il faisait 20 ans ferme dans les 8 jours qui suivent.
Je trouve que votre portrait de Christiane Taubira n'est pas juste. Non. Elle incarne d'abord l'attachement à la République et aux droits de l'homme. C'est ça, c'est une grande défenseur des droits de l'homme.
Elle était au départ indépendantiste.
Elle a été, mais c'est son parcours politique, elle n'a pas à en avoir honte, c'est pas une tare. Bon, elle a évolué, mais je vois pas pourquoi d'ailleurs...
Partie prenante des lois mémorielles,
je vois pas pourquoi.
2001.
Bon, les lois mémorielles, c'est pas le fait d'insister sur la mémoire, l'abolition de l'esclavage, enfin, l'histoire de l'esclavage, comme l'histoire du colonialisme, etc., qu'on travaille cette mémoire-là et qu'on reconnaisse ce qui s'est passé, c'est essentiel. Mais après, la question, c'est l'utilité de ces lois, leur aspect juridique, etc. Est-ce que... Bon, moi, le débat s'est posé à propos de la loi sur le génocide arménien. Ça faisait vraiment débat parce que...
Et la toute première sur la loi Guesson,
autant on est d'accord pour reconnaître ce génocide, autant après, est-ce que légiférer sur le contenu même de l'enseignement et de l'histoire... Ça pose pas un problème sur le plan intellectuel. Voilà, ça c'est une réalité. C'est ça la question des lois mémorielles. Mais c'est pas du tout le fait de reconnaître ces abominations de l'histoire qu'ont été l'esclavagisme ou le colonialisme. Enfin, c'est très bien de le faire.
La loi interdit le débat.
Christiane Taubira, je pense, ça va être quelqu'un qui va renforcer la protection des citoyens, les droits civiques, la défense des droits de l'homme. Je pense que c'est le pendant utile à Manuel Valls, qui lui va incarner davantage la fermeté.
Oui, ce soit Hollande, Hérault, ou les socialistes, ou même les Verts, ou même, je crois, le Front de Gauche, j'ai entendu personne dire qu'il fallait revenir sur les lois Perben, à savoir les lois qui ont transformé le droit français en un droit anglo-saxon. Et ça, j'ai entendu personne dire que
pour l'instant, le gouvernement, c'est les personnalités. Mais moi, j'attends du gouvernement que ce soit une équipe. Si Montpellier... On ne peut pas se féliciter du succès du sport de Montpellier tout à l'heure en disant c'est une équipe qui est moins dominée par l'argent et par les affaires que le Paris Saint-Germain. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est une équipe qui a des talents, mais aussi qui a une solidarité. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée championne de France. Si la gauche veut devenir championne d'Europe... En France, elle en a besoin, qu'on ne connaisse pas les expériences de la Grèce, de l'Espagne. Mais si la gauche veut devenir majoritaire, c'est-à-dire satisfaire les besoins de ces gens, mais moi, je compte beaucoup sur une équipe au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et que l'ensemble des talents et des personnalités soient mis au service du pays pour sortir de la crise. Bon, après, c'est ça qui me paraît fondamental, parce que quand j'ai vu quand même les échanges... moi, ça m'a fait plaisir, je le dis très sincèrement. Je n'ai pas le culte de la personnalité, mais ça m'a fait plaisir de voir certains ministres de droite, notamment le ministre de l'Intérieur, quitter son ministère. Ça m'a provoqué une profonde joie, et ce n'est pas pour autant que je n'en blancais ou que je suis en admiration devant tel ou tel ministre, mais on en a quand même chassé quelques-uns qui méritaient depuis 5 ans ou depuis 2-3 ans selon leur prise en fonction, qui méritaient de l'être.
On tous un chèque, ce qui est...
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.